C'est bon, on est bon.
Shalom Vracha, Erev Tov les Koulam. Et voilà, on se retrouve après cette interruption de Pessah et on se retrouve pour notre étude hebdomadaire. Et là, ce soir, on arrive à un gros morceau. Et oui, ce soir, Yom Ha'atzmaout. Oh oh! Alors là, je vous dis tout de suite, c'est un cours qui va déchaîner toutes les passions, bien évidemment. Et là, je voudrais commencer tout de suite en vous disant la chose suivante. Un jour, un groupe d'hommes d'église, d'hommes et de femmes d'église, sont arrivés en Israël, à Jérusalem, et ont demandé de rencontrer un rabbin. Moi, c'était des francophones. Et donc, on a été chercher le Rav Uri Cherki pour leur parler. Et bon, ils ont posé plein de questions. Et parmi les questions qu'ils ont posées, ils ont dit que Kvoda Rav, on était à l'approche de Yom Ha'atzmaut, ils ont dit, Rav, on aimerait bien que vous nous expliquiez la signification religieuse de Yom Ha'atzmaut. Et le Rav a répondu, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune signification religieuse à Yom Ha'atzmaut, de la même façon qu'il n'y a aucune signification religieuse à Pessah, qu'il n'y a aucune signification religieuse à Shabbat, et qu'il n'y a aucune signification religieuse à aucune mitzvot du judaïsme. Pourquoi ? Eh bien, le Rav a expliqué, eh bien, tout simplement parce que le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est avant tout une nation, une identité nationale, un peuple. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est simplement l'invention d'un sioniste ? Eh bien, pas du tout. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour la première fois, eh bien, il lui dit, « Je ferai de toi un grand peuple. Vesra legoy gadol. Je ferai de toi un grand peuple et non pas une grande religion. » Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas de nous une grande religion ? Mara ? Eh bien, il n'y a aucun problème. Mais la religion et la notion de peuple ne parlent pas du tout de la même chose. Religion vient du terme latin « religius », relié. En d'autres termes, dans une religion, celui qui, par la pratique de certains dogmes, de certaines actions, va se relier à la communauté, alors fait partie de cette communauté. Prenons un exemple très simple. Dans l'islam, il y a les cinq piliers fondamentaux de l'islam. Celui qui ne veut pas s'y souscrire, eh bien, n'est pas musulman. Celui qui rejette les dogmes fondamentaux de l'Église n'est pas chrétien. Alors que vous le savez très bien, un juif, même s'il rejetterait toutes les 613 mitzvot, eh bien, il n'en reste pas moins un juif à 100%. Il n'y a pas dans le judaïsme de juifs de première division, de juifs de deuxième division, de juifs de Ligue des Champions. Ça n'existe pas. Dans le judaïsme, tout le monde fait partie d'une identité qui s'appelle le peuple juif. En d'autres termes, et pour comprendre cela bien, la religion parle à l'individu par l'intermédiaire d'actions, alors que le peuple parle au collectif par l'intermédiaire d'une identité. Et c'est deux choses complètement différentes. Et donc, aucune mitzvah du judaïsme n'a de vocation religieuse. Elles ont toutes une vocation de nous rattacher à notre identité nationale. Alors, c'est vrai que pendant près de 200 ans, sous l'impulsion de la Révolution française et de Napoléon, eh bien, le judaïsme, d'abord en France, en Europe, et ensuite dans le monde entier, s'est comporté comme une religion. Mais ça ne fait pas de nous une religion. Et je vais dire les choses de manière la plus simplement du monde, littéralement parlant, au niveau du français, celui qui est religieux fait partie de la religion. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Ça veut dire que, d'après le français, si jamais je ne suis pas religieux, je ne fais pas partie de la religion. Or, vous savez bien que c'est complètement absurde de dire cela. Parce qu'il est évident que quelqu'un qui ne fait pas la Torah, ben, il est quand même juif. Et donc, eh bien, ça veut dire que la dimension première de l'identité d'Israël, c'est de faire partie d'un peuple. Et ce peuple-là, eh bien, il a, comment dire, une loi qui lui est propre, ça s'appelle la Torah. Il a également une identité qui lui est propre, c'est tous les juifs. Et il a également, eh bien, un lieu de prédilection où il peut s'exprimer. C'est la terre d'Israël. Lorsque ces trois conditions sont réunies, alors il peut y avoir la rencontre tant attendue entre le Créateur et la créature. En d'autres termes, le peuple d'Israël a un rôle à jouer, un rôle à jouer à l'international. Quel est ce rôle ? Non pas d'apprendre à chaque individu dans ce monde comment être un mec bien, parce que ce n'est pas le rôle du judaïsme, ça ne veut pas dire que les juifs ne peuvent pas le faire. Il y a plein de juifs qui ont été des exemples de comportement et d'inspiration pour plein de gens, et c'est très bien. Mais le rôle du peuple juif n'est pas d'apprendre à toi et toi et toi comment être kadosh, mais d'apprendre aux identités nationales des autres peuples comment, en tant que collectif, on peut devenir goy kadosh. C'est ainsi que Dieu s'adressera au peuple juif et qui nous dira « Ve'esra les goy gadol » et plus tard, il nous dira « Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh » une nation sainte. Donc en fait, c'est de cela qu'on parle. Être capable de dévoiler notre identité nationale. Le problème, c'est que il y a une chose récurrente qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil, la galoute, eh bien, est un statut dans lequel le peuple juif ne peut plus être véritablement lui-même. Pourquoi il ne peut plus ? Eh bien, le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël au premier chapitre, va nous donner la définition de l'exil. C'est important d'avoir une définition d'une réalité aussi forte. Eh bien, le Maharal nous dit l'exil, c'est trois choses. L'exil, c'est lorsque, un, le peuple juif n'est pas en Israël, deux, lorsqu'il est dispersé aux quatre coins du monde, et trois, lorsqu'il est soumis à la volonté des nations. Voilà la définition de l'exil. Donc, eh bien, d'après le Maharal de Prague, quel est l'opposé de l'exil ? Bon, ça, c'est pas d'après le Maharal. Mais le Maharal le cite également, l'opposé de l'exil, c'est bel et bien ce qu'on appelle la Géoula. Or, la Géoula, si on s'en réfère donc à cette définition du Maharal, eh bien c'est lorsqu'on est en Israël, réuni et indépendant. En d'autres termes, Rabotai, eh bien, à quoi correspond Yom HaAtzmaout ? Eh bien, Yom HaAtzmaout correspond tout simplement ni plus ni moins qu'au passage de l'exil à la Géoula. Oui, je le dis très rapidement, mais en fait, c'est quelque chose d'incroyable. Yom HaAtzmaout, c'est le moment où, un, le peuple juif revient en Israël. Ben oui, on n'a pas été en Ouganda finalement, Baruch HaShem, on s'est retrouvé en Israël et non pas en Ouganda, même si on aurait pu... Je ne sais pas, inventer des beaux safaris à côté du lac Victoria, mais non. On est en Israël et on ira autour du Kinneret et pas autour du lac Victoria. Donc, on est retourné en Israël. D'autre part, c'est tout le peuple juif qui est retourné en Israël. Vous allez me dire, mais attends, là, tu es en train de faire un cours pour les États-Unis. Non, tout le peuple juif n'est pas encore en Israël. À ceci, je répondrai la chose suivante. Je répondrai que, tout d'abord, on est presque, aujourd'hui en 2021, on est à 49% du judaïsme mondial en Israël. C'est-à-dire qu'on est au toto la majorité du peuple juif en Israël, qui peut donc s'appeler, comme dit dans la halakha, rubo kekulo. La majorité fait force de loi sur le tout. Maintenant, quand je vous dis qu'on y est très très proche, il y a deux facteurs qui font augmenter ce nombre. Un qui est très positif et un qui est terriblement négatif. Le positif, c'est évidemment l'alia, mais le facteur négatif, qu'on connaît tous très bien malheureusement, c'est l'assimilation. D'année en année, on perd plus de juifs qu'on en gagne. Il y a plus de gens qui s'assimilent que de naissances dans le peuple juif. Et donc, ça veut, et l'assimilation, elle est grandissante en dehors d'Israël, beaucoup plus qu'en Israël. Et donc, il se trouve que le nombre de juifs en dehors d'Israël baisse et le nombre de juifs en Israël monte. C'est ça qui amène aussi ces chiffres-là. Mais plus important que cela, depuis la création de l'État d'Israël et ce qu'on appelle la loi du retour, eh bien aujourd'hui, ce ne sont plus les Anglais qui viennent avec leur livre blanc et leur disent « Vous avez un quota d'Aliyah et passé ce chiffre-là, vous ne pouvez plus venir en Israël. » Non, aujourd'hui, tous les Juifs du monde peuvent, s'ils le veulent, décider de venir émigrer en Israël. Ce qui veut dire que aujourd'hui, tous les Juifs, comme mes parents, comme d'autres, qui habitent encore en Koutz-Laharetz, ce n'est pas parce que une puissance étrangère leur interdit, mais c'est parce que chacun, au niveau individuel, pour leurs raisons, eh ben, ne peut pas venir en Israël. Peut-être pour des problèmes de parnassa, pour des problèmes de travail, pour des problèmes familiaux, pour des problèmes médicaux. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à dire, pour l'instant, je ne peux pas venir en Israël. Mais c'est du domaine du choix personnel, et donc ça ne dépend plus maintenant de la condition du peuple juif. Le peuple juif peut rentrer en Israël. Après, est-ce que monsieur et madame rentrent en Israël? Ça, c'est un autre débat. En d'autres termes, nous sommes en Israël, le peuple juif y est rassemblé, et celui qui n'y est pas est connecté à lui. Je vous rappellerai, eh bien, cette phrase qu'on a dit là, il y a quelques semaines. On a terminé le Seder, et qu'est-ce qu'on a dit? Le Shana Abba Birushalayim. C'est-à-dire que cet appel qui pendant 2000 ans était un appel d'espoir, aujourd'hui est en fait un plan de travail. Alors peut-être que ça ne sera pas l'an prochain, mais ça sera dans 2 ans, ainsi de suite, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus réalisable qu'à l'époque, évidemment. Et la dernière dimension, eh bien évidemment, Yom HaAtzmaout représente l'indépendance. Ça y est, le peuple juif n'est plus soumis au bon vouloir, eh bien, de ses hôtes. Lorsque Ben Gurion va dire « Anu, chevre mu'akat ha'am » comme ça qu'il disait, « Nous, les représentants du peuple, anachnu machrezim bazat ala kamat medina yehudit be'eretz Israël » nous, par la présence représentants du peuple, déclarons l'établissement d'un État juif en terre d'Israël. Et cet État s'appellera Medinat Israël. Ça y est, nous ne sommes plus soumis aux nations. Ça ne veut pas dire que nous vivons en autarcie. Bien évidemment que non. Être indépendant au niveau de la halakha, eh bien, a une définition. Comment peut-on décréter qu'une malchoute, qu'une souveraineté est indépendante? Eh bien, nous dira le Rambam dans les lois sur Gzela et Aveda, qu'une malroute, c'est lorsqu'on a le monopole de la monnaie et de l'armée. En d'autres termes, si c'est la Banque d'Israël qui imprime le shekel, et si c'est l'État d'Israël qui décide de moi m'envoyer en milouim, en réserve militaire, eh bien, c'est que c'est un royaume souverain. Le fait que nous ayons des accords commerciaux, politiques, militaires, avec plein d'autres pays, et les États-Unis en premier lieu, eh bien, n'enlève en rien la dimension d'indépendance. Même le roi David avait des accords avec d'autres pays, le roi Salomon également. Ça n'existe pas, un pays qui vit en autarcie, fermé sur lui-même. En d'autres termes, on peut conclure cette première partie de qu'est-ce que c'est, en fait, Yom HaAtzmaout. Eh bien, c'est tout simplement, halakhiquement parlant, le passage de la galoute à la Géoula. Zéou. Quand on dit « Bezrat Hashem, on attend que la Géoula arrive », c'est une erreur. La Géoula est là depuis le 5 Iyar 1948. Depuis le 14 mai 1948, la Géoula est là. La Géoula est là, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Nous avons encore plein de choses à continuer. Mais ça y est, nous sommes passés à une autre étape de notre histoire. Et quelle est cette étape? Eh bien, cette étape, on pourrait l'appeler comme étant celle du retour de nos couleurs. Et quand je dis retrouver nos couleurs, je ne parle pas simplement de notre drapeau, mais je parle de quelque chose de bien différent. Dans le Bnei Issachar, un des grands maîtres de la Chassidoute, il nous dit ce que nous sommes en train de vivre dans Sfirat HaOmer. Vous savez, on décompte le Omer, et les Mekoubalim, les Kabbalistes, nous ont appris que chaque jour du Omer représente une Sfira, une élévation dans les Sfirot, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français? Je sais pas,
le conte du Homer.
Oui, mais dans le conte du Homer, tu sais, par exemple, là, hier soir, on a compté 12. Et donc, ce soir, pour vous, on a compté 12. Et donc, ça veut dire, on a dit, c'est une semaine et 5 jours. Et les kabbalistes, dans certains sidourim, pour la majorité des sidourim sfaradim, c'est marqué. Il y a marqué en petit, comme ça, entre parenthèses, ah, c'est le 5e jour de la 2e semaine. Eh ben, alors, ça va s'appeler, ça va s'appeler Hod Shebagvura. C'est-à-dire qu'il y a dans la Kabbalah 7 sphirot tartonot qui s'appellent la bonté, la rigueur, l'éclat, l'éternité, la profondeur, la base et la royauté. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Des Oraita, des fêtes de la Torah. Ces mois sont entre Nissan et Tishrei. Nissan, on a évidemment Pessah. Iyar, on a Pessah Sheni. Sivan, on a Shavuot. Ensuite, on a Tammuz, Av. Il n'y a pas vraiment de fête si on considère Tisha B'Av comme étant une fête. Et ensuite, on a Tishrei avec Rosh Hashanah, Yom HaKippurim et Chag HaSukkot, Shmini Atzeret. Les fêtes qui sont Purim, qui sont Hanouka, Tu Bishvat sont des fêtes des Rabbanan. Donc, nous dit le Bnei Issachar, les fêtes qui sont marquées dans la Torah sont comprises entre Nissan et Tishrei. Et donc, ces sept mois, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, eh bien, chaque mois représente également une des 7 dimensions. Tout ça pour dire que le mois de Iyar, le second mois, s'appelle Midat HaGevura. C'est être capable de redevenir Gibor. Gibor, vaillant, puissant. Semble-t-il que l'essence de ce mois, eh bien, c'est le mois où le peuple juif retrouve toute sa vaillance, toute sa force. Dans la Torah, la seule fête du mois de Iyar, c'est une fête très particulière. J'ai dit tout à l'heure, c'est Pessah Sheni. Et Pessah Sheni, c'est une fête très particulière. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une fête qui vient de la Torah, mais qui n'a pas été décrétée par Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas parlé de Pessah Sheni au départ. Il nous a parlé de Pessah, il nous a parlé de Shavuot, il nous a pas parlé de Pessah Sheni. Qu'est-ce qui se passe dans la Torah ? Eh bien, on va nous raconter dans la paracha de Be'alotecha que Moshe Rabbeinu vient voir les Bnei Israël en leur disant « Il faut faire Pessah ». C'est l'année suivante de la sortie d'Égypte. Et là, il y a un groupe de personnes qui viennent voir Moshe en disant « Nous sommes impurs !» Puisque, alors il y a plein de raisons qui sont données. Est-ce qu'on portait le cercueil de Yosef ou d'autres raisons, l'homme échané ? Nous sommes impurs ! Et donc, on ne peut pas faire le sacrifice de Pessah, on ne peut pas participer à la fête. À ce moment-là, Moshe ne sait pas comment répondre. Il ne sait pas comment réagir. Il est très stressé par la question. Que faire ? Alors il dit, attends deux secondes, je vais aller demander au patron. Moi, je ne comprends pas. Si j'avais été Moshe, qu'est-ce que j'aurais fait ? Mais j'aurais dit au peuple juif qui ne peut pas faire Pessah. J'ai dit, tu ne peux pas, c'est pas grave. Bezrat Hashem l'année prochaine. Il y a un grand principe dans la Torah qui s'appelle Anus Rachamana Patre. C'est-à-dire quoi ? Anus Rachamana Patre. Eh bien, ça veut dire, celui qui ne peut pas faire une mitzvah, il est patour. Quelqu'un qui ne pourrait pas faire kippour parce qu'il est malade, on ne lui dit pas dans un mois, tu feras un kippour de rattrapage. Mais ici, les Bnei Israël n'ont pas accepté l'idée de ne pas passer par la case Pessah. Et donc, ils disent à Moshe, qu'est-ce qu'on fait ? Moshe va voir Dieu et Dieu lui dit, très bien, Pessah Sheni. En d'autres termes, l'essence de Pessah Sheni vient du peuple juif. La fête des Oraita de Iyar, c'est le réveil du peuple d'Israël. Ainsi, eh bien, la Torah, le Tanakh, lorsqu'il voudra, eh bien, décrire le mois de Iyar, notre mois, eh bien, va l'appeler de manière très bizarre. Dans le livre de Melachim, lorsqu'on parle de la construction du Bet Hamikdash, eh bien, on nous dit la chose suivante. Vayehi b'shmonim shana v'arba me'ot shana letzed b'nei Israël me'eretz Mitzrayim. Ça fait 480 ans qu'on est sorti d'Égypte. Bashana revi'it b'chodesh ziv. Hu achodesh hasheni lemloch shlomo al Israël vayiven bayit la'Hashem. Nous dit le Tanakh que Shlomo a commencé la construction du Bet Hamikdash le deuxième mois, donc le mois de Iyar, et la Torah l'appelle chodesh ziv. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Ziv? C'est l'appellation du mois de Iyar d'après la tradition juive. Mais qu'est-ce que c'est que cette dimension de Ziv? Eh bien, les amis, la notion de Ziv est une notion fondamentale, puisqu'il s'agit tout simplement de ce que j'ai appelé tout à l'heure comme étant le fait de retrouver ses couleurs. Comment ça, le fait de retrouver ses couleurs? Eh bien oui, il faut ici comprendre de quoi il s'agit. Ziv, c'est l'éclat qu'on a dans le visage. Ziv apanim. Il y a, semble-t-il, une différence, et ça, toute personne qui travaille à la Chevra Kedisha pourra l'expliquer. Et on a énormément de témoignages là-dessus, que le visage d'un mort, même, je ne te parle pas d'un mort depuis des semaines, juste après la mort, il se passe autre chose. Il y a un film de Disney. Il y a un film de Disney qui est une apologie à la Avodah Zara, qui est mâche le film le plus Avodah Zara qu'on ait trouvé ces derniers temps, et qui s'appelle Hercule. Hercule de Disney. Ah ben oui, c'est la mythologie grecque dans toute sa splendeur. Maintenant, il y a un truc qui est très très bien fait dans le film, le dessin animé, c'est quoi? Eh bien, ils veulent représenter quelle est la différence entre un être humain et un dieu de l'Olympe. Eh bien, comment ils ont représenté ça? Ils ont représenté ça parce que les dieux de l'Olympe, ils ont entouré d'une aura qui les fait briller. Et quand Hercule, il n'est pas un dieu de l'Olympe, eh bien, il est fade comme ça. Mais quand il devient, à la fin du film, olympien, alors il retrouve cet éclat. Eh bien, en fait, ça n'a rien à voir avec le dieu de l'Olympe, c'est Ziv Apanim que tout le monde a. Que lorsqu'on est vivant, on a cette dimension-là, cet éclat dans le visage, et lorsqu'on est mort, eh bien, on ne l'a plus.
Et il y a aussi Ziv Ashkina.
Bidiouk ! Exactement ! C'est exactement cela. Ziv Ashkina, c'est exactement cet éclat qui sort de la présence divine. Eh bien, nous dit la Torah, le mois de Iyar, Zechodesh Ziv. C'est le mois où on retrouve l'éclat du peuple juif. Il y a un midrash extraordinaire qui se trouve dans Ephosaïa, attends, je l'ai quelque part. Où est-ce que je l'ai marqué? Voilà. Il est dans Shir HaShirim Rabba. Dans Shir HaShirim Rabba, eh bien, le Midrash nous dit, dans la deuxième partie, Piska Bet, nous dit, Tane Rabbi Shimon Bar Yochai, nous enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai, Besha'a sheyatsu Israël mi Mitzrayim, lema ayudomim. Quand on est sorti d'Égypte, nous dit Rabbi Shimon, à quoi ressemblait-on? Et il nous dit, le ben melech she'amad micholio. Nous ressemblions à un prince, un fils de roi, qui vient de sortir de sa maladie. Il était malade, c'était la maladie de l'exil. Là maintenant, on vient de sortir de la maladie. Prenez quelqu'un qui est tombé malade, que ce soit le Covid ou que ce soit autre chose. Ben, il y a la période où il est malade et il y a la période où, ça y est, il n'est plus malade. Les antibiotiques, les antivirus, machin... c'est bon, ça a fonctionné, ça a nettoyé l'organisme. Et donc, tu fais une prise de sang, et tu te rends compte qu'il n'y a plus d'agents bactériens, qu'il n'y a plus de virus, mais le corps est encore faible. Il a réussi à battre la maladie, mais il n'est pas au top encore. C'est ce qu'on appelle en français la convalescence. C'est-à-dire que je ne suis plus malade, mais je ne suis plus encore au top. Dans le langage du Midrash, regardez comment c'est marqué. Donc le Midrash continue, on disait, donc quand on est sorti d'Égypte, on ressemblait à quelqu'un qui n'est plus malade. Amarlo pedagogo la meler. Le précepteur de l'enfant a dit au roi, il dit bon, yeler bincha leaskule. Ça y est, ton fils n'est plus malade, qu'il aille travailler, qu'il aille étudier. Et là, le roi lui a dit, Amarlo ameler. Adain lo ba beni bezivo. C'est-à-dire, oui, on n'est plus malade, nous dit Akadosh Baruch Hu, on est sorti d'Égypte, mais on n'est pas encore arrivé au ziv.
Bonne mine.
Et voilà, on n'a pas la bonne mine, exactement. On n'a pas retrouvé nos couleurs. On est pas l'eau comme ça. On est pas l'eau. Eh bien, le mois de Iyar, c'est le mois où on retrouve nos couleurs. C'est le mois de la Gvoura. C'est le mois où on retrouve les couleurs du peuple juif. Et ce n'est pas seulement un jeu de mots avec le fait que le 14 mai 1948, le 5 Iyar 5708, on a hissé les couleurs du peuple juif pour la première fois avec le drapeau d'Israël. Lorsque l'État d'Israël était créé, on a hissé nos couleurs. Mais c'était pas seulement dans le drapeau, c'était également au niveau de l'identité globale d'Israël. Yom HaAtzmaout, c'est pas seulement le passage à la Géoula, c'est le passage à la Géoula qui donne, eh bien, la bonne mine au peuple juif. Puisque, enfin, après 2000 ans d'exil, nous revenons parmi les nations. Nous retrouvons notre identité qui avait été promise à Abraham, de « Je ferai de toi un grand peuple ». Nous étions un peuple aussi en exil, mais on ne se comportait pas comme un peuple. Toutes les questions étatiques étaient laissées aux non-juifs, ou alors aux juifs qui servaient l'État non-juif. Nous avons retrouvé notre dimension d'État, de peuple, de souveraineté. C'est ce qui nous permet de retrouver notre ziv, nos couleurs. Et en fait, c'est ça, Yom HaAtzmaout, le moment où le peuple juif peut enfin recommencer à avoir un message pour l'humanité. On va dire que à partir du moment où l'État d'Israël est créé, chaque juif dans le monde change de statut. Alors évidemment, celui qui habite en Israël, il change de statut, évidemment. Mais même celui qui habite en Chutz La'aretz, celui qui habite à Paris ou celui qui habite à New York, il a changé de statut. Pourquoi ? Eh bien parce que maintenant, qu'il le veuille ou pas, il devient un ambassadeur de l'État d'Israël. Alors, en France, c'est très souvent de manière péjorative, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème en Israël, il y a des manifestations terribles à Paris, et il peut même y avoir des actes antisémites contre la communauté juive à Sarcelles ou ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on assimile le juif de Paris aux soldats israéliens. Mais aux États-Unis également. Mais peut-être pour de meilleurs exemples. Tous les juifs sont considérés, consciemment ou inconsciemment, comme étant quelque part des succursales du Ham Israël qui est retourné en terre d'Israël. Nous ne sommes plus simplement des individus de confession israélite. Nous sommes les ambassadeurs d'Israël auprès des nations. Zeziv shel Am Israël. Et ça s'est passé, eh bien, le 5 Iyar 5708, le 14 mai 1948. Vous allez me dire, est-ce que c'est un hasard ? Ben, pas du tout. Ce n'est absolument pas un hasard. Comme vous le savez, nous n'avons pas le droit, d'après le Talmud, de faire des calculs sur quand viendra la Géoula. Bon, Baruch HaShem, nous maintenant, elle est venue déjà, ça y est, elle est là depuis, depuis 60, plus de 70 ans. Mais d'après la halakha, on n'a pas le droit à l'avance de faire des calculs pour dire quand ça sera. Seulement, tous les rabbins qui ont rappelé qu'on n'avait pas le droit de le faire, ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait. Il y en a tous qui se sont trompés, sauf deux. Pourquoi je dis qu'ils se sont trompés ? Bah parce que tout simplement, ils ont donné des dates qui sont déjà passées et on a vu que bah, il ne s'est rien passé. Mais il y en a deux qui ne se sont pas plantés. Il y en a un qui a donné l'année de la Géoula et il y en a un qui a donné le jour de la Géoula. C'est qui ces gens-là ? Bah, ce n'est pas des petits rabbins. C'est parmi les plus grands maîtres du judaïsme et particulièrement des secrets de la Torah. Parce que vous imaginez bien que lorsqu'on parle de Géoula, ça va de pair avec Torah Takabala. Eh bien, ces deux rabbins ne sont autres que le Gaon de Vilna et le Harizal. Ah oui, ce n'est pas des petits joueurs. Le Harizal va nous donner le jour exact de la Géoula. Le Harizal, je te parle de ça, il y a près de 500 ans. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le Hari n'a pas écrit beaucoup de livres. La majorité des écrits du Harizal ont été retranscrits par son élève Rabbi Chaim Vital. Mais il y a quelques petites choses qui nous proviennent directement du Hari. Parmi ces choses, il y a un petit livre que je vous conseille qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, c'est un commentaire du Harizal de la Megillah de Ruth. Et dans ce commentaire de la Megillah de Ruth, ah, je vois que Sacha est avec un couteau qui fait très peur, et donc je me dis, est-ce que c'est à cause de ce que je suis en train de raconter ? C'est...
Non, il est en train de faire sortir sa famille d'Égypte.
Ben, c'est ça. mais le Maroc, c'est... Le Maroc, c'est fini, le Maroc.
Ça va encore, je suis encore au
Maroc. C'est ça. Bekitzor, le Harizal, dans son commentaire de la Megillah de Ruth, va prendre un verset extraordinaire. Il y a un verset qui nous dit la chose suivante. Alors, le verset dans Ruth dit comme ceci. Lini alayla. Donc, on est à la fin de l'histoire où Ruth est dans le champ de Boaz. Et Boaz lui dit, tu peux dormir dans le champ cette nuit. Lini alayla. Ve'ayaba boker. Et lorsqu'arrivera le matin, im yigal echtov yigal. Si le membre de ta famille, de la famille de Naomi que je connais, accepte de se marier avec toi, donc va te donner une geoula au niveau individuel, alors tov, zezetov, yigal. Ve'imlo yachpotz legaoler. S'il n'accepte pas de se marier avec toi, Gealti Hanochi, moi je me marierai avec toi, Chai Hashem, Shirvi Adaboker. J'en fais le serment devant Dieu et tu peux dormir jusqu'au matin ici. Ça, c'est la traduction littérale du verset. Le Harizal nous explique ce verset de manière beaucoup plus profonde. Il nous dit Lini Alayla, reste ici pendant la nuit. La nuit, dans la tradition juive, c'est l'exil. Il dit, Vayaba Boker, lorsqu'arrivera la Géoula, Im Yigal Er Tov, Yigal, si la Géoula vient par Tov, c'est-à-dire Torah Vemaasim Tovim, Yigal, la Géoula, elle peut arriver par l'intermédiaire de l'idéal de la Torah. Veim Lav, et sinon, si le peuple juif n'a pas décidé de revenir tous à la Torah, Gealti Hanochi, Dieu il dit, moi j'amènerai la Géoula quand même. J'attendrai pas que tous les juifs y fassent teshuvah pour amener la Géoula. Chai Hashem. J'en fais le serment au nom de Chai et de Hashem Yudke Vavke. Dit le Harizal, Chai Hashem, au niveau de la représentation de la Kabbalah, eh bien, Chai, c'est la dimension de Yesod, et Hashem Yudke Vavke, c'est la dimension de Tiferet. Nous dit le Harizal, il s'agit ici de l'allusion la plus évidente de la date de la Géoula, mais je ne peux pas en dire plus. C'est comme ça qu'il écrit. Eh bien, aujourd'hui, on comprend, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on compte le Homer, eh bien, on fait toujours correspondre la journée à une des dimensions des sphirotes. Et j'ai dit, la première sphira, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Nous dit le Harizal, Ba Yesod, Sheba Tiferet, c'est le jour de la Géoula. Yesod, Sheba Tiferet, c'est-à-dire le cinquième jour, le sixième jour, slicha, de la troisième semaine. Eh bien, le sixième jour de la troisième semaine, c'est le 5 Iyar, le jour où a été proclamée l'indépendance de l'État d'Israël. Nous dit cela le Harizal, 500 ans avant les événements. Bon, alors il a dit le 5 Iyar, mais est-ce que quelqu'un nous aurait expliqué que ça allait être Bémet en 1948? Eh bien, la réponse est oui. Et ce quelqu'un, c'est bel et bien le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a un commentaire du Sifra d'Itzniuta. Le Sifra d'Itzniuta, c'est une partie extrêmement profonde du Zohar. Et là-bas, dans le Sifra d'Itzniuta, on va nous expliquer comment Dieu a créé l'homme. Comment Dieu a créé l'homme, et en fait, c'est tout un programme, hein, toutes les heures de la création du sixième jour, il s'est passé quelque chose. Et chaque étape est une nouvelle étape dans l'évolution et la création de l'homme. Bécha'a, dans l'heure exacte où l'homme s'est tenu sur ses jambes, s'est levé, eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, c'est ça l'heure de la Géoula. Et il fait un calcul qui est très simple, en fait, en fonction des heures de la journée. Des heures de la journée, donc, par rapport à Adam Arishon. Il dit, Bécha, chez Adam Arishon Kamal Raglav, eh bien, c'est à mettre en correspondance avec les horaires de la journée de l'histoire. Et il arrive, par son calcul, à faire tout simplement correspondre à la date de 1948. En d'autres termes, le Gaon de Vilna a dit la Géoula, ça sera en 1948, de son point de vue, près de 200 ans plus tard. Et le Harizal nous dit la Géoula sera le 5 Iyar, de son point de vue, près de 500 ans plus tard. Et bien, dans notre génération, nous avons tout simplement eu la chance de voir ces prophéties presque de ces deux géants se réaliser, puisque la Géoula a eu lieu le 5 Iyar 1948. En d'autres termes, eh bien, les amis, Yom HaAtzmaout, c'est le moment où la Géoula, donc où le peuple juif a retrouvé ses couleurs, et donc là où il peut, eh bien, tout simplement retrouver un dialogue avec le monde entier. Pour cela, il lui fallait faire preuve de vaillance, de gvoura. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce mois de Iyar, toutes les fêtes qui sont en relation avec la Gvoura sont dans le mois de Iyar. La guerre d'indépendance, 1948, et la Gvoura de prendre la décision de créer l'État d'Israël, vous savez, il en a fallu de la vaillance pour prendre la décision de déclarer l'indépendance. Je vous rappelle que le 12 mai 1948, donc deux jours avant la fin du mandat britannique et donc la décision de est-ce qu'on va déclarer ou pas l'indépendance de l'État d'Israël. Il y a deux personnes qui arrivent à Tel Aviv chez Ben Gurion. Ces deux personnes, l'un s'appelle Moshe Charet et l'autre s'appelle Golda Meir. Les deux reviennent de missions très importantes. Golda Meir a été envoyée dans le plus grand secret en Jordanie pour voir si, lorsqu'on va déclarer l'État d'Israël, est-ce que les Jordaniens vont rentrer en guerre également contre nous ou pas. Elle revient avec une nouvelle moyenne, puisque le roi de Jordanie lui a dit « Madame Meir, vous n'avez pas bien compris, si vous déclarez l'indépendance, on va vous exterminer. On va vous brûler, on va vous violer, on va vous détruire jusqu'à la moelle. Alors qu'à la base, on pensait que les Jordaniens, eux, ils rentreraient pas dans le conflit. Donc ça, c'est pas cool. Et d'autre part, il y a Moshe Charette qui revient de Washington, où il a été envoyé pour que s'assurer de l'appui américain dès qu'on va déclarer l'indépendance et que les Arabes vont nous attaquer. Seulement le problème, c'est qu'aux États-Unis, on lui a dit non. Il y a un monsieur qui s'appelle Marshall, le fameux plan Marshall. Eh bien, Marshall, qui est le secrétaire d'État américain, il dit « on n'est pas d'accord que vous déclariez l'indépendance ». Si vous voulez bien, retardez ça, on verra dans 6 mois, on en reparlera, et peut-être dans 1 an, on verra. Mais pas maintenant. Donc, c'est avec ces deux infos que Ben Gurion, il doit composer. Que, un, tous les Arabes vont nous attaquer, et deux, les États-Unis ne vont pas nous aider. Attends, quand tu sais ça, il en faut de la vaillance pour dire on y va quand même. Certes, les États-Unis seront le premier pays à reconnaître l'État d'Israël. C'est-à-dire que juste après l'indépendance, les États-Unis vont dire nous on reconnaît. Ils n'étaient pas pour, mais une fois qu'on l'a fait, ils ne nous ont pas tourné le dos. Ils n'ont pas aidé militairement, mais ils ont reconnu l'État d'Israël, ça a été les premiers. Mais tout ça pour dire qu'il fallait de la vaillance. Et que parler de vaillance, on est à la sortie de Yom HaShoah. On est à la sortie de Yom HaShoah, Rabotai. Comment vous expliquer ce chiffre incroyable? Vous savez que dans la guerre d'indépendance, il y a eu près de 6000 morts. 6000 morts, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Je ne pense pas que vous vous rendez compte de quoi on parle. 6000 morts dans la guerre d'indépendance sur un pays qui compte 600 000 habitants, c'est 1% de la population. Comprenez-moi bien, c'est comme si aux États-Unis, il y a près de 2 millions de morts. Il y a à peu près 200 millions d'habitants aux États-Unis.
300 millions, je crois.
300 millions maintenant. Alors, c'est près de 3 millions de morts. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. 1% de la population qui meurt dans une guerre, c'est énorme. Mais Kitsour, le chiffre le plus incroyable, ce n'est pas 6 000 morts. C'est que sur ces 6 000 morts, près de la moitié, voire un peu plus, 3 000 morts sont des rescapés de la Shoah. C'est-à-dire des gens qui viennent d'échapper à Auschwitz, qui viennent d'échapper au ghetto, qui viennent d'échapper à la Shoah, qui sont arrivés en Israël, qui prennent les armes et qui vont tomber dans la guerre d'indépendance. Il y a un endroit qui fait la jonction entre Yad Vashem et Har Herzl à Jérusalem, qui s'appelle le monument de la dernière branche. Andartat Netzer Acharon. Et ce monument-là rend hommage à toutes ces personnes qui sont tombées et qui sont les derniers de leur famille. Toute leur famille a été décimée dans la Shoah. Ils sont les derniers représentants. Ils n'ont pas eu le temps de faire une nouvelle famille. Mais tous ces gens-là... Pardon ?
Ça fait de la peine.
C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et pourtant, quand on interroge les rescapés de la Shoah qui se sont battus dans la guerre d'indépendance, qui sont encore en vie, quand on les interroge sur la question, ils disent tous la même chose. Ils disent « Mais attendez, mais vous êtes fous. On était tous prêts à mourir, mais on était tellement heureux que si on doit mourir, au moins, ça sera pour quelque chose. »
Justement, c'est ce qu'il avait dit, Ben-Gurion, il avait dit « S'ils ne sont pas capables de mourir pour leur pays, ils ne pourront pas avoir la ténacité pour résister dans ce pays-là. »
Mais tout à fait.
C'est ça qu'il disait.
Mais ça, c'est vrai aussi.
Pendant la guerre d'indépendance.
Mais tu as raison, tout à fait. Mais ça, on va dire que c'est vrai aussi pour quelqu'un qui n'est pas un rescapé de la Shoah. Là, les rescapés de la Shoah sont des gens qui ont vu combien de milliers, de milliers, de milliers, de millions de Juifs mourir pour rien. Tous ces rescapés qui ont pris les armes ont dit « Mais attends, là, si on meurt, on l'a choisi. » Et on a choisi de se battre pour notre identité, pour notre pays, pour être libre. C'est tellement plus fort de mourir pour ça que de mourir dans le ghetto. Et donc, si vous voulez, il fallait faire preuve d'une vaillance incroyable. d'une gvoura extraordinaire quand tu sors de la Shoah, que tu ne, pour la pour, personne n'a appris à faire la guerre, personne n'est militaire là-bas. Mais d'arriver en Israël, pour la plupart, ils ne parlent pas hébreu, mais ils prennent les armes, et c'est grâce à eux qu'on est là. Quel courage, quelle gvoura. Et donc, dans ce mois de la gvoura, eh bien, ce n'est pas seulement la guerre d'indépendance. Beaucoup plus tard, 19 ans plus tard, Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem en 1967, ça sera également dans le mois de Iyar, le 28 Iyar. Et bien avant cela, la guerre de Bar Korva et l'Akba Omer, qui symbolise la victoire, l'une des grandes victoires des soldats de Bar Korva sur les Romains, ben c'était également en Iyar. Iyar, c'est le mois de la Gvoura, c'est le mois de la Géoula, c'est le mois où Am Israël a retrouvé ses couleurs. Eh bien, c'est cela qu'on fête à Yom HaAtzmaout. La Géoula, le moment où on a pour la première fois levé le drapeau bleu et blanc, eh bien, c'est le moment où on a retrouvé nos couleurs. Mais quelle est cette couleur ? Ben, j'ai dit, c'est bleu et blanc. Vous savez, quand il a fallu décider d'un drapeau, nous, on n'y réfléchit pas, mais il a fallu décider de quel va être le drapeau de l'État d'Israël. Donc, il y a un brainstorming qui se met en place. Qu'est-ce qu'on prend comme drapeau ? Alors, depuis déjà pas mal d'années, le drapeau blanc avec une étoile bleue de David, c'était le drapeau du mouvement sioniste. D'ailleurs, complètement différent du premier drapeau que Herzl avait dessiné dans son bouquin. Dans son bouquin, dans Altneuland, Herzl dessine un autre drapeau, qui est en fait un drapeau noir avec 7 étoiles dorées. Parce qu'il ne faut pas oublier que Herzl est le fils du dirigeant des francs-maçons de Budapest. Et c'est le drapeau des francs-maçons, en fait. Mais comme il a été rejeté des francs-maçons de Budapest parce qu'il posait trop de questions, Herzl, il fait une croix dessus finalement et il dit « Non, 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 on va trouver un autre drapeau. » Et quel va être le drapeau ? Alors au début, c'est devenu le drapeau blanc à étoile bleue et finalement, le congrès sioniste va adopter pour le drapeau blanc avec deux bandes bleues et un Magen David bleu au milieu. Avalama. Pourquoi c'est ça le drapeau d'Israël ? Bien, d'abord, il a fallu choisir un symbole. Finalement, le Magen David s'est imposé. Vous savez pourquoi ? Bien, parce que depuis près de 500 ans, le Magen David s'est imposé comme symbole juif. Point. Avant cela, c'était la menorah. Mais depuis près de 500 ans, c'est le Magen David qui s'est imposé partout. Achève le Magen David. C'est d'où ça vient ? Stan, c'est un mec qui... Hein ?
C'est un truc kabbalatique, peut-être ?
Ouais, c'est un truc d'un mec qui ne savait pas quoi faire, il était en train de griffonner sur sa table.
Non, d'après moi, ça a à voir avec le mot Magen. Ça devait être son armure, Magen David.
Quoi ? Tu trouves que ça Magen bien, un truc comme ça, à 6 branches dans tous les sens ?
Bah ouais.
Le Midrash Shocher Tov, nous dit qu'en fait, le Magen David, c'était la signature, le sceau de David, du roi David. Bon, mais lama, pourquoi ? En quoi c'est le sceau de David ? C'est l'or ! Et en fait, il nous dit, mais non, le Midrash il dit, parce que David, dans son sceau, sa signature, c'était de superposer deux dalettes. La lettre dalet en hébreu, il s'appelle David, donc il superpose deux dalettes. Oui, mais non. Les amis, non. Un dalet, c'est comme ça. Et tu peux me mettre deux dalettes dans tous les sens que tu veux ensemble, ça ne fait pas un Magen David. Ou alors, on a oublié un truc. On a peut-être oublié qu'à l'époque du roi David, L'alphabet qui est utilisé, c'est l'hébreu, mais il ne s'écrit pas comme aujourd'hui. On a retrouvé dans les fouilles archéologiques l'alphabet utilisé en Israël pendant toute la période du premier Beth Amikdash, depuis David jusqu'à Ezra, et même avant David. C'est l'alphabet qui s'appelle Ktav Ivri Kadum, l'ancien hébreu. C'est les mêmes lettres, hein, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, mais elles ne s'écrivent pas pareil.
Est-ce que ça a un rapport peut-être alphabeta, non ? Parce que le delta.
C'est pas ça un rapport. C'est que l'alphabeta gamma, ça a été pris de ça.
Parce que le delta.
Mais bien sûr.
En passant majuscule, c'est le.
Mais t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Je te dis juste que c'est pas. Ça vient du delta. Le delta, il vient du dalet. Et effectivement, en hébreu ancien. Comment on écrit un dalet ? C'est un triangle. Et donc, quand tu le midrash, il te dit que David y superposait deux dalets, ben c'est le Magen David. En d'autres termes, le Magen David, c'est non seulement un symbole juif depuis 500 ans, mais c'est surtout le fait que tu te rattaches à la royauté de David.
Et le vav. Il y a quelque chose avec le vav ou pas ?
Non, il n'a pas mis le vav.
David.
Tu veux que je te dise ? Il y a ma fille, elle a un grand problème. Parce que dans son téléphone, elle a marqué le numéro de mon frère. Le numéro de téléphone de mon frère. Mon frère, il s'appelle Yoram. Donc, elle l'a appelé dans son téléphone Yoram Dod. Tonton. Et
aussi David.
Ben ouais, elle a bugué. Parce que après, elle pensait qu'en fait, c'était son nom, Yoram David. Mais en fait, il s'appelle Yoram Moshe. Et elle est persuadée encore aujourd'hui qu'il s'appelle Yoram David. Elle n'arrive pas à comprendre. Je lui ai montré l'invitation au mariage, l'invitation à la bar mitzvah. Je lui ai tout montré où c'est marqué Yoram Moshe partout. Non, elle reste sur David. Azov. David, Dalet. Je sais pas, toi, quand tu choisis une signature. Tu mets pas forcément toutes tes lettres dans ta signature. Tu mets ce qui claque. David, c'est Dalet. C'est l'air. Quoi qu'il en soit, il y a le Magen David au milieu. Après, il a fallu choisir autre chose. Parce que symbole juif qui nous rattache à David, c'est bien. Mais qu'est-ce qui a déterminé pendant 2000 ans d'exil l'appartenance au judaïsme, l'appartenance au peuple juif, pendant l'exil ? Bah, c'était les mitzvot. Pendant 2000 ans, était juif celui qui pratiquait encore. Celui qui pratiquait plus, qui s'assimilait, oui.
Je coupe, mais est-ce que ça a un rapport avec le chalchelet dans le talit ?
Le chalchelet ? Le trellet ?
Le trellet dans
Attends, t'arrives à la couleur. Deux secondes, je ne suis pas encore à la couleur. Mais je suis exactement à ce que tu dis. Quand ils sont réfléchis, ils ont dit, mais c'est quoi qui représente le judaïsme pendant 2000 ans ? Ils ont dit c'est la Torah et les mitzvot. Mais je te parle du congrégationniste qui ne sont pas religieux. Hein. Et donc, ils ont dit qu'est-ce qui va le plus représenter les mitzvot ? Le talit. Et donc, les deux bandes que tu as dans le drapeau d'Israël, c'est les bandes du talit. C'est-à-dire que quand tu prends le drapeau d'Israël...
C'est parce que c'est des communistes, c'est pour ça. C'était ça le signe des tzofim en Israël, c'était le bleu.
Le démocrate.
Oui, mais d'accord, mais si c'est mais si c'est des communistes, ça aurait dû être rouge.
C'est parce que c'est des démocrates.
C'est ouais.
Les travailleurs, c'est le bleu.
Oui, mais la couleur du communisme.
Les Canadiens, sacré bleu.
Les socialistes.
Mais Kitzo Rabotai, d'abord, je suis pas encore sur la couleur. J'étais sur le symbole et ensuite sur les bandes.
Vous pouvez répéter pourquoi? Le congrès, enfin, le mouvement qui n'était pas religieux, il a accepté.
Parce que les gens du mouvement sioniste mondial, ils connaissent très bien l'histoire. Et ils savent très bien que pendant 2000 ans, qu'est-ce qui a maintenu la cohésion du peuple juif ? Ben, c'était la pratique des mitzvot. C'est-à-dire que pendant l'exil, celui qui ne faisait plus le judaïsme, ben, il s'assimilait. C'est vrai que.
Une composante religieuse dans le drapeau.
Ben oui, bien sûr. Alors eux, ils vont pas te dire que c'est religieux, ils vont te dire que c'est culturel. Eux, ils vont te dire que un talit, c'est un objet qui représente. D'accord, mais nous, on sait ce que c'est le talit. Il y a marqué dans la Torah, Usrartem et kol mitzvot Hashem. Les tzitzit, c'est le fait pour te rappeler toutes les mitzvot. Le talit, c'est ce qui englobe toutes les mitzvot. Et donc, une fois qu'on avait le symbole et qu'on avait les bandes, ben, il fallait choisir une couleur. Alors, est-ce que c'est le Parti démocrate? Est-ce que c'est Sacre Bleu? Est-ce que c'est... Est-ce que... Eh bien, pas du tout. La couleur, le bleu azur, le trellet, évidemment, toi, tout de suite, tu dis, bah, attends, talit, trellet, tout ça, c'est normal. Mais il y a également ça marqué dans la Mishnah. La Mishnah nous dit que trellet, le trellet du tzitzit, domé la yam. Ça ressemble à la mer. La mer.
Oui, mais il n'y a pas aussi quelque chose avec le léviathan, mais un poisson particulier.
Le chilazon, tout à fait.
Ouais, oui, l'escargot, quand on parle.
Exactement, le chilazon. Alors, ce n'est pas un escargot en bretagne. Le chilazon, semble-t-il, le chilazon, on a retrouvé le chilazon officiel. C'est ce qu'on appelle en hébreu argamon ke kotsim. Ça a un nom extrêmement scientifique.
Il a du sang bleu.
Alors, c'est pas du sang bleu. En fait, c'est un coquillage que quand tu sors l'animal de sa coquille et que tu l'écrabouilles, ça fait un espèce de violet comme ça, tout moche. Mais quand tu le laisses sécher au soleil, ça devient très laid. OK? Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui mettent le tzitzit très laid, eh ben, c'est cette couleur-là qu'ils utilisent. Donc, effectivement, mais pourquoi est-ce qu'on nous a demandé dans la Torah de colorer un des fils du tzitzit en trellet? Eh bien, tout simplement parce que nous dit la Mishnah, le trellet du tzitzit, voilà, comme tu nous montres ici, tout à fait, eh bien, le trellet nous fait penser à la mer nous fait penser au ciel nous fait penser à l'Ivnat HaSapir, et tout ça nous fait penser au trône céleste. En d'autres termes, le bleu azur, le trellet, est là pour nous rattacher directement à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez un petit peu qu'est-ce que c'est le drapeau d'Israël? C'est le symbole juif qui nous rattache à David, c'est le symbole qui n'oublie pas l'ensemble de la Torah, et c'est une couleur qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Yom HaAtzmaout, c'est le moment où on a retrouvé nos couleurs, et nos couleurs, c'est celles de Ribono Shel Olam. Voilà ce qu'on fête cette semaine, enfin la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Donc, chez Shabbat Shalom et Chag Sameach les Kulam.
Oui.
Agroy Seshkoer, Rabbi Fischenson.
Qu'est-ce que tu dis là?
Agroy Seshkoer, Rabbi Fischenson.
Nounou, Sacha, qu'est-ce que tu disais?
Je pensais que c'était la fête des falafels, non?
Alors, j'ai envie de te dire que non, parce que le falafel, c'est libanais.
Ouais, c'est vrai aussi.
Ça aussi, c'est vrai.
Ouais. C'est un Torah à Paris, toute mon enfance,
ah ouais. C'est plus facile de faire un falafel que de faire un barbecue.
Mais là, j'ai appris quelque chose. Merci beaucoup.
Ben, avec plaisir. Avec plaisir.
Ouais, merci beaucoup. Toujours un plaisir.
Chazak tout baruch, les amis.
Agitin Shabbos.
Agitin Shabbos.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
À la semaine prochaine.